pour un écrivain, il y a deux choses redoutables. La première, c'est l'échec, et la deuxième, c'est le succès.
On écrit pour que quelque chose subsiste.
Europe 1, 14h-15h, la voix est libre.
Ouvrir un livre et rentrer dedans quand c'est une belle histoire, c'est un merveilleux voyage pour pas un rond, quoi.
Nicolas Carreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans La Voix est libre, dernière émission de la saison. On commence comme toujours par la première phrase d'un roman culte. J'ai choisi « Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur » aujourd'hui de Harper Lee. Mon frère Jem allait sur ses 13 ans quand il se fit une vilaine fracture au coude. Mais aussitôt sa blessure cicatrisée et apaisée ses craintes de ne jamais pouvoir jouer au football, il ne s'en préoccupa plus guère. Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, chef-d'œuvre de la littérature américaine publié en 1960. Nous en écouterons un extrait tout à l'heure. Des romans et éventuellement des chefs-d'œuvre, nous en lirons plein d'autres avec les libraires de l'émission. Et puis Victor Dolan sera là avec sa chronique jeunesse. Mais d'abord, bien entendu, c'est l'invité. La Voix est libre, c'est parti. Premier chapitre.
14h-15h sur Europe 1. La Voix est libre.
Nicolas Carreau.
Mon invité est un écrivain que je suis depuis longtemps, un auteur à part, avec un style reconnaissable entre mille. Ça paraît banal, mais c'est pas toujours le cas. Je l'avais quitté avec son roman « Chaleur », une histoire de compétition de sauna, je vous le conseille. J'ai pas le temps de vous le raconter. Il est de retour avec le superbe « La soustraction des possibles » chez son éditeur Finitude, qui comme toujours soigne les couvertures. Celle-là est dorée, magnifique. C'est un roman d'amour, un roman noir, un roman politique aussi d'une certaine façon. Impossible de le ranger dans une catégorie, c'est souvent bon signe. Il vient d'obtenir le 43e prix relais des voyageurs lecteurs pour ce roman d'ailleurs, un prix associé à Europe 1. Bonjour Joseph Incardona.
Bonjour Nicolas.
Je précise que vous êtes connecté depuis Bordeaux, c'est la ville de votre éditeur Finitude, c'est ça ?
Ça, exactement, oui.
Merci d'être avec nous. Le roman se passe en Suisse, à la fin des années 80. Il y a Aldo, d'abord, on va les prendre un par un. Il y a Aldo Bianchi, 38 ans, prof de tennis, beau gosse, intellectuellement moyen. Il drague ses élèves quadra et riche surtout. C'est un peu un gigolo, en fait. Et pour lui, c'est très clair. L'argent fait le bonheur, il n'y a pas de débat là-dessus.
C'est un bonhomme qui est effectivement un peu victime du paradigme libéral, on va dire. Il vient d'une famille modeste, il voulait être champion de tennis, il n'a pas réussi, mais voilà, il se retrouve à donner des cours. Et puis finalement, il réussit à se faire engager dans ce club qui est le plus prestigieux de la ville, le tennis club des Eaux Vives. Et puis tout d'un coup, il y a même cette scène un peu au début du roman où il vit quand même confortablement, il a une jolie Alfa. Mais quand il arrive sur le parking du tennis club, sa voiture, c'est la plus minable de toutes, parce qu'il y a des Maserati, oui, des Ferrari, des Porsche. Et puis il se dit, mais moi, je veux aussi...
Pourtant, c'est joli, une Alfa Spider, déjà.
Mais oui, voilà. En plus, on est dans les années fin des années 80, donc c'est ce joli modèle des années 80. Et en fait, il trouve... c'est comme s'il mettait le pied dans la porte, il trouve un accès à ses... Mais on ne parle pas de richesse, on parle de ultra-richesse. Et donc, il pense à travers ses cours de tennis, justement, en flirtant avec ses élèves, et puis de temps en temps, en ayant des histoires avec, il se fait offrir une montre, il se fait offrir un voyage... Et puis à un moment donné, il trouve une possibilité de pouvoir entrer dans le grand jeu, ce qu'il croit être le grand jeu, et de gagner plus d'argent, en transportant notamment des valises depuis la France jusqu'à la Suisse. C'est la grande époque de l'évasion fiscale, donc on n'est pas encore dans le blanchiment, on n'est pas encore dans le crime, on est dans le délit. Mais il met un doigt dans l'engrenage, et tout ça va l'amener bien sûr à jouer dans la cour des grands.
On va y venir, on va rentrer dans l'intrigue, mais au début, donc, il se rapproche de femmes riches ou marié éventuellement à un homme riche, ultra riche, effectivement. En l'occurrence, il séduit Odile Langlois, 49 ans, qui prend des cours de tennis avec lui, il devient son amant, mais lui, il veut en tirer profit. Et il a comme cette illusion que rien que le fait d'être proche physiquement de quelqu'un de riche, ça rend riche, ça permet de gagner de l'argent. C'est étonnant cette oui. sensation que vous transmettez.
C'est un peu comme avec les célébrités, hein. On se dit pas, on veut briller par reflet, et puis effectivement, c'est ce qui donne l'illusion. Je pense encore aujourd'hui à beaucoup de personnes de fréquenter la richesse, qu'on est soi-même un peu riche ou on peut bénéficier de certaines largesses. C'est quelque chose d'assez naïf au fond, parce que très vite, il comprendra que c'est un monde dans lequel surtout que c'est un monde plutôt aristocratique, c'est un monde dans lequel on est la plupart du temps et on ne nous laisse pas entrer comme ça. Mais voilà, il y a cette idée, c'est comme si on fréquente des gens connus, on a l'impression que soi-même, on brille un petit peu aussi. C'est ça, un petit peu, il est ébloui par cette idée, effectivement.
C'est d'abord un livre sur le milieu des très riches. J'ai jamais lu une description aussi fine et terrible de ce milieu. Vous vous êtes documenté, vous vous êtes incrusté ou vous êtes multimillionnaire vous-même?
Écoutez, c'est assez particulier parce que c'est un de mes livres où les souvenirs d'enfance sont les plus forts pour ces descriptions. Mes parents ont été pendant pas mal d'années, ils ont travaillé dans des hôtels, ils faisaient les saisons, et ensuite ils ont été engagés par des grandes familles, ils étaient domestiques. Donc mon père était chauffeur, faisait le jardin, ma mère était gouvernante. Et donc nous, ils en ont fait plusieurs de ces familles, hein, et on habitait toujours une annexe de ces immenses villas, etc. Et donc
Ah,
moi, je,
d'accord.
mes yeux d'enfant, 8 ans, 9 ans, 10 ans, comme ça, je voyais ces choses, bien entendu. S'il y avait des enfants de mon âge, j'avais pas le droit de jouer avec eux, et ce genre de choses. Mais je voyais les descriptions que je fais des tableaux de Andy Warhol, du Mao Tse-Tung, les piscines avec la moquette autour, tout ça, c'est des choses que j'ai vues. Alors bien sûr, après, l'enfance magnifie, tout ça a grandi en plus avec le recul. Alors quand il n'y avait personne, mon père me faisait voir ces choses. Donc il y a pas mal de descriptions qui sont réellement prises de choses qui ont été vues. Et en plus, avec ce regard presque de l'innocence, hein, presque, avec cet enthousiasme de l'an où on s'extasie encore plus. Donc beaucoup de choses, beaucoup de lieux que je décris, c'est vraiment des choses que je suis allé chercher dans des souvenirs. Et puis voilà, et puis après, bon, bien sûr, on brode dessus, on invente, on regarde, on se documente aussi.
Ah, c'est drôle que vous disiez ça, parce qu'en le lisant, moi, j'ai vu quelques clins d'œil, mais peut-être je me suis trompé, à Gatsby le Magnifique. Et effectivement, dans Gatsby le Magnifique de Fitzgerald, c'est donc Nick Carraway, qui est un jeune homme pas très riche, qui observe juste à côté de lui, la grande maison à côté de lui, d'ultra riche. Il y a de ça quand même dans ce roman.
Mais oui, mais c'est mon pain, ce genre de littérature.
Ah, bah voilà.
Mais oui, il y a ça, il y a ça, il y a de l'ordre de Aldo Bianchi, je l'ai vu,
Ah oui, d'accord.
on les voit, ces bonhommes, on les croise. Alors après, ce sont des personnages qui se construisent avec d'autres personnages, bien entendu. On parle parfois de clichés, mais on est surtout dans l'archétype, et puis ces choses-là sont là. Cet Aldo Bianchi existe, en tout cas existait ou existera.
Bon, allez, je voulais le lire tout à l'heure, mais je résiste pas parce que je me dis qu'il faut que les auditeurs qui n'ont pas encore lu le livre aient quand même un aperçu de votre style, de votre manière de décrire les mouvements, les êtres. Je lis juste le tout début, c'est facile. Cet homme sur le court de tennis, c'est lui, Aldo Bianchi, celui de l'histoire d'amour. Un avantage de son métier est de pouvoir se placer derrière l'élève, saisir son poignet afin de lui montrer lentement le mouvement correct à effectuer. D'une voix douce mais ferme, il accompagne le geste par la parole, la lui souffle à l'oreille en quelque sorte. Les corps se touchent, c'est inévitable. L'été indien permet encore de porter shorts et jupettes de tennis. Et Dieu seul sait combien, avec Monsieur Sergio Tacchini, combien les tissus de ces combinaisons sportives sont minces. Je ne sais pas si vous avez entendu, chers auditeurs, il y a ce côté hyper précis et à la fois, il y a une petite note d'humour toujours dans ce rythme-là.
Oui, c'est avoir cette ironie, hein, sur ce genre de choses. Voilà, bah après ça c'est le métier d'écrivain, c'est ça que je pense que demandent les lecteurs, c'est avoir quelque chose qu'on connaît, mais une suggestion, une impression, une sensation, une description qui est prise d'un angle nouveau, qui est proposée de manière nouvelle. C'est ça qu'on peut espérer en tant qu'écrivain, c'est tout d'un coup proposer une vision d'une chose aussi simple qu'une tenue de tennis, mais qui évoque certaines choses. Puis c'est ça le plaisir, c'est ça le plaisir de l'écriture.
Au détour d'une phrase, vous citez Balzac. Il y a pas mal de citations d'ailleurs dans le livre, très bien choisies. Balzac donc, derrière chaque richesse se cache un crime. Vous croyez ça? On voit forcément quand on gagne de l'argent, on se trahit forcément si on accède à une ultra-richesse comme ça?
C'est un peu plus subtil que ça, sans doute, parce que c'est une phrase qui m'a beaucoup intrigué.
Eh
Hein,
oui.
soit il parle de richesse, Balzac, soit de fortune, mais moi, je préférais mettre derrière chaque richesse, il y a quelque chose de plus libéral, on va dire, de plus contemporain que la fortune qui fait déjà un peu l'idée du sort,
Du
de la bonne
destin,
fortune, etc. Voilà, du destin. À un moment donné, je fais tout un descriptif. Ça m'arrive à 3-4 moments dans le livre. Je fais une sorte d'historique sur certains événements, dont l'historique sur la banque UBS. Et je fais sur les deux derniers siècles à peu près, je fais une sorte de voyage historique sur comment cette banque est devenue ce mastodonte mondial. Et puis, à la fin, je fais ce clin d'œil et je dis, voilà, maintenant vous savez pour qui vous travaillez. Et en fait, c'est ça, peut-être cette richesse, ce crime ou ce délit, c'est le fait de fermer les yeux. De se dire, bah, de toute façon, si c'est pas moi qui le fais, ça
Ouais,
serait
ce
quelqu'un
sera un
d'autre.
autre.
Et c'est se déresponsabiliser. Et puis, c'est fermer les yeux sur quelque chose. C'est regarder ailleurs quand il faudrait regarder les choses en face. C'est se taire quand il faudrait parler. Et c'est ce qui, à un moment donné, ces personnages sont confrontés à ça. Parce que Svetlana, l'autre personnage, je pense qu'on va y arriver bientôt,
On
mais
va y
à un
arriver.
moment donné, elle peut dire des choses, elle voit des choses, elle entend des choses, mais. Elle se dit, ben voilà, si je veux monter, moi, dans les hiérarchies de la banque, etc., il faut que je regarde ailleurs. Et c'est là, peut-être, l'idée de crime évoquée par Balzac. C'est une supposition.
Alors, justement, ça ne suffit pas d'être l'amant d'une femme riche pour devenir riche et prendre sa revanche sociale. Aldo va avoir l'occasion de se faire vraiment de l'argent. On y revient dans un instant.
La voix est libre. Nicolas Carreau.
De retour dans La Voix est libre, toujours avec Joseph Incardona pour son superbe livre La soustraction des possibles chez Finitude, qui a obtenu le 43e prix relais des voyageurs lecteurs. Vous êtes toujours avec nous, Joseph Incardona. On avait parlé d'Aldo tout à l'heure, Aldo Bianchi, qui est un des personnages principaux de ce roman. Il a 38 ans, il est un peu prof de tennis, mais gigolo sur les bords. Et puis un jour, il a l'occasion de se faire vraiment de l'argent en trimballant des valises d'argent, justement, entre la France et la Suisse. J'ai pas dit, je crois, qu'on est à la fin des années 80, début des années 90. C'est important, ça aussi, la période. C'est avant le système de web, etc. C'était plus concret, disons, l'argent à l'époque, peut-être. C'était pour ça que vous avez choisi cette époque-là?
Pour trois raisons. D'abord, parce que, effectivement, je pense, mais ça, c'est une opinion personnelle, que c'est on observe là un vrai changement dans l'histoire de l'humanité. Hein. Il y a trois choses. Il y a bah, la chute du mur de Berlin, il y a l'effondrement du bloc soviétique, et puis surtout, il y a Tim Berners-Lee qui, à Genève, au CERN de Genève, en 90, en 90 pour le dire à la Suisse, eh ben, invente le web et le donne, l'offre, en fait cadeau finalement à l'humanité. Et à partir de là, tout va changer. Notre monde va se dédoubler et on observe un changement au niveau de l'économie mondiale, de la finance, des rapports humains, des rapports même affectifs. Donc pour moi, c'est une période vraiment charnière. Et puis effectivement, on est encore avant. Des lois sur blanchiment, vous pouviez ouvrir un compte de plusieurs millions en Suisse à cette époque en 15 minutes. Ce que je veux dire, c'était quelque chose de complètement fou. En plus, il y a Mitterrand au pouvoir, donc il y a énormément d'évasion fiscale du côté français qui vont aller dans la partie francophone de la Suisse. L'évasion fiscale italienne va se faire au Tessin, et puis l'allemande va se faire en Suisse alémanique. Et donc, on a vraiment, effectivement, comme vous dites, cet argent physique qui est là. Et d'ailleurs, ça m'a pris aussi. Qu'est-ce que représente 1 million d'anciens francs français
Physiquement.
physiquement en pascal, hein, en billets de 500? Et donc, quand ils sont repassés, eh bien, voilà, on peut les mettre dans un sac à dos. Enfin, oui ou non, voilà. Donc,
Et
c'est ces
justement, il y
choses-là.
avait des astuces très concrètes, des vraies, dont vous êtes inspiré.
Ah oui, tout ça, c'est un roman très documenté à ce niveau-là. Bah oui, on les cachait dans les portières des voitures, sous la roue de secours de la voiture, ce genre de choses. Et puis, il y avait des bonhommes qui faisaient plusieurs fois par semaine des allers-retours Paris, Lyon, Genève, etc.
Et plus
Et puis,
sophistiqué
bah,
ensuite.
plus, ouais. Alors celle-ci, je la raconte parce que tout le monde pense que je l'ai inventée, mais
Voilà.
elle est vraie. Il y a le mont Salève est une petite montagne qui culmine à 1300 mètres, à 10 km, quinzaine de kilomètres du centre de Genève. Et en fait, tout le monde croit que c'est une montagne suisse, mais en réalité, elle est sur territoire français. Et ça, c'est un ancien conseiller de François Mitterrand qui l'avait révélé. J'ai retrouvé ça dans un vieil article de Libération. Il y a des types se lançaient avec un aile delta. depuis cette montagne, et puis faisait du deltaplane et arrivait à un club de deltaplane qui était en Suisse. Et en fait, dans leur sac à dos, transportaient ben, de l'argent français qui a ensuite été transporté dans les banques suisses. Donc en deltaplane. Et je trouve que c'est quelque chose d'assez, finalement, presque de poétique.
Alors, Aldo, à cette occasion, il rencontre Svetlana, qui est banquière, elle, hein, déjà, mais qui est tchèque et qui vient d'un milieu social assez modeste, un peu comme Aldo. Et là, il y a de l'amour, pour une fois, déjà, dans ce roman, qui déborde pas d'amour, mais il y a de l'amour au milieu de tout ça, au milieu de ce cynisme et du côté sinistre, parfois, de ces affaires-là. Et ils vont s'associer, finalement, pour prendre ce qu'il y a à prendre, quoi.
Il semblerait que tout d'un coup, il y a une occasion qui pourrait faire le larron. Et puis, c'est effectivement ces deux personnes qui vont réellement s'aimer. Et puis, Aldo, d'ailleurs, va, grâce à cet amour, ce personnage odieux du début va se transformer, va devenir plus sympathique au fil des pages. Parce que, et bien, à un moment donné, il en a marre de faire ce qu'il est en train de faire. Parce qu'il est une forme de pureté qu'il éprouve pour la première fois, cette espèce d'amour réel. Il a toujours été cynique, il a toujours humilié les femmes, il les a utilisées. Et là, tout d'un coup, il est quelqu'un d'autre. Et puis, c'est Svetlana qui, justement, à un moment donné, travaillant, ça n'existe plus maintenant, mais les devises étrangères, justement, à l'UBS, il dit, tiens, il y a possibilité de se faire... Alors, je ne dis pas comment, bien sûr, il y a possibilité de prendre de l'argent. Il y a plein de pognon qui va arriver. Et c'est sur l'oreiller, finalement, que ça va se décider. Et puis, ces deux caves, ce n'est pas du tout des gens du milieu, ce n'est pas du tout des gens qui savent faire ce genre de choses. Et donc comment faire, comment prendre cet argent? On est des petits parce qu'ils s'en rendent compte qu'à un moment donné, ils ne vont pas pouvoir aller... enfin, ils veulent trop. Mais alors, ils disent, on va se servir. Et voilà.
Et c'est pas tellement en fait pour acquérir des biens en particulier, c'est surtout pour changer de milieu finalement.
Oui, c'est vrai qu'eux-mêmes ne savent plus tellement pourquoi. À un moment donné, il y a une vraie question. Est-ce que, mais je crois qu'ils sont eux-mêmes prisonniers de cette soif de pouvoir, de cette soif de possession. Svetlana se retrouve dans des repas, et puis elle est avec l'ambassadeur de Russie, et puis ici, puis ça, puis ils ont envie de posséder, en fait. Ils sont c'est vraiment pour moi deux victimes, comme je disais au tout début du rêve libéral, finalement. C'est aussi le braqueur qui va braquer une banque. C'est au fond, voilà, c'est cette volonté de posséder des choses, de se faire une vie au soleil, etc. Parce qu'après, bien sûr, l'idée c'est de partir ailleurs et puis de tout recommencer. Ils sont relativement jeunes encore, mais ils sont prisonniers de quelque chose, parce qu'ils ont le plus important, ils ont l'amour. C'est un peu cliché de dire ça, mais c'est quand même important.
Parce que justement, moi, il y a beaucoup de citations dans le livre, je l'ai dit, très très bien choisies. Moi, j'en ai une qui m'est venue en lisant votre roman, elle est d'Alexandre Dumas, je vous la donne. « L'ambition est la passion de ceux qui n'en ont pas d'autre ». Et ils s'en rendent compte un peu, Svetlana et Aldo, que, en fait, qu'est-ce qu'ils cherchent? À part l'ambition, ils n'ont pas grand-chose. Et l'amour,
non,
donc.
Parce qu'en plus, oui, et puis je crois aussi qu'ils sont aussi, ils vivent dans une sorte d'ennui, de retour du même. Et puis, c'est aussi quand je mets en rapport cet écrivain extraordinaire qui est Charles Ferdinand Ramu, cet écrivain suisse qui parle finalement que le bourgeois n'a pas accès à la tragédie, a éventuellement accès au drame. Et puis, ce sont deux personnages qui finalement, même dans leurs espoirs de grandeur, ils peuvent pas aller même dans le tragique. Et on va leur donner la possibilité de devenir réellement des personnages de roman, des personnages tragiques. Voilà, ça aussi, c'est une chose qui arrive avec la fin du roman. Mais voilà, ils sont effectivement, c'est exactement ce que vous dites, cette citation de Alexandre Dumas. J'imagine que c'est le père.
Oui. L'ambition est la passion de ceux qui n'en ont pas d'autre. Mais vous êtes assez cruel avec vos personnages, et en même temps, au bout d'un moment, en fait, on comprend que vous les aimez malgré tout, malgré leur pathétique.
Oui, mais toujours. Ça, c'est quelque chose. Parce qu'en fait, je dénonce jamais dans mes livres. J'aime bien raconter. Je raconte des histoires. Je pose pas de jugement. Après, on s'en fait. Alors, bien entendu, le point d'approche peut induire à un jugement. Effectivement, on comprendra ce que je préfère ou moins. Mais en même temps, il y a toujours ce rouage du tragique. Il y a toujours le fait aussi que, bah voilà, une même personne peut être capable de bravoure ou de lâcheté suivant les moments de vie, suivant ce qu'elle éprouve, suivant ce qu'elle traverse. Et finalement, tous ces personnages se débattent dans ce monde. Et finalement, même les plus salauds essayent de faire au mieux. Et parfois, ils sont même attendrissants. Ils sont même ce Horst Riddle, qui est quand même pas un gars très reluisant, bah, ou Max Vermillon, enfin l'avocat d'affaires, bah, même ces personnages, j'aime bien aller les prendre aussi dans leur intimité, où le personnage de Max, c'est quelqu'un qui est plutôt odieux tout le temps, mais quand il est seul, et on voit ses fragilités, on voit pourquoi il est odieux,
Voilà.
pourquoi il se dé parce que finalement il se défend lui aussi, et il cache quelque chose, parce tout le monde cache un secret aussi, hein, dans ce livre. Les seuls qui sont eux-mêmes complètement la lumière du jour, ce sont c'est la famille Corse, les truands Corses. Eux, ils disent, voilà, nous, on est comme ça, c'est nous, on est tel quel. Alors que tous les autres jouent un jeu assez différent de trompe-l'œil, on va dire.
J'ai une dernière citation qui est dans le livre, mais je ne savais pas comment la placer. Mais comme on arrive à la fin de cette interview, je voulais quand même absolument la dire et que vous nous expliquiez un peu. C'est en ouverture du roman, c'est l'exergue. Quand je vois une Alfa Romeo, j'ôte mon chapeau, de Henry Ford. Qu'est-ce que c'est que cette citation? Elle est superbe. Quand je vois une Alfa Romeo, j'ôte mon chapeau.
Mais en fait, il y a trois grandes parties, parce que c'est construit comme une tragédie grecque. Et en fait, sur chaque partie, ces trois grandes parties sont elles-mêmes divisées en trois sous-parties. Et ces trois sous-parties, chaque fois, j'ai posé des citations comme ça. Alors, la
Mais qu'est-ce qu'il
première
voulait dire
partie,
par là?
bah que Henry Ford, quand il disait, c'est la voiture que j'aurais voulu construire moi, cette Alfa Romeo, parce que voilà. Et puis justement, donc vu que c'est la partie qui concerne Aldo, il y a trois citations sur des grands constructeurs automobiles. Porsche qui disait la voiture parfaite n'existe pas, j'ai dû la faire moi-même. Donc moins d'humilité que Ford, mais voilà. Et donc ça collait bien au personnage d'Aldo. Puis après sur Svetlana, il y a des citations aussi de grands couturiers qui me font énormément rire, parce que alors, il y a une forme aussi de non-sens parfois de ces citations.
On n'a plus le temps, mais il faut vraiment lire ce livre qui est assez long, hein, qui doit bien faire 500 pages, si je ne me trompe pas, mais qui a un rythme dingue, c'est-à-dire que ça va vite, on est emmené, il y a de l'action tout le temps, le style est parfait, très drôle, et c'est en plus d'une grande profondeur. Merci beaucoup, Joseph Incardona.
Merci à vous, merci à vous.
Et je rappelle donc que La Soustraction des Possibles, donc chez Finitude, a obtenu le 43e prix Relais des Voyageurs Lecteurs. Merci beaucoup.
Europe 1.
Dans un instant, encore des livres, nous allons écouter un roman, et lequel? Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, d'Harper Lee. À tout de suite.
La Voix est Livre.
Nicolas Carreau.
Retour dans La Voix est Livre, il est l'heure d'écouter un livre. Cette semaine, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, d'Harper Lee, publié en 1960. En France, on le connaît mal. Aux États-Unis, c'est un classique. Il est lu dans les écoles. Tous les petits Américains connaissent les aventures de Scott, la narratrice de 12 ans. C'est elle qui raconte. Elle est la fille d'Atticus Finch, un avocat qui défend un noir accusé à tort du viol d'une femme blanche. On est en Alabama, au sud. Autant dire que l'accusé a peu de chances de s'en sortir. Écoutez le début, lu par Cachou Kirsch.
Mon frère Jem allait sur ses 13 ans quand il se fit une vilaine fracture au coude. Mais aussitôt sa blessure cicatrisée et apaisée ses craintes de ne jamais pouvoir jouer au football, il ne s'en préoccupa plus guère. Son bras gauche en resta un peu plus court que le droit. Quand il se tenait debout ou qu'il marchait, le dos de sa main formait un angle droit avec son corps, le pouce parallèle à la cuisse. Cependant, il s'en moquait, du moment qu'il pouvait faire une passe et renvoyer un ballon. Bien des années plus tard, il nous arriva de discuter des événements qui avaient conduit à cet accident. Je maintenais que les Ewell en étaient entièrement responsables. Mais Jem, de 4 ans mon aîné, prétendait que tout avait commencé avant l'été où Dill se joignit à nous et nous mit en tête l'idée de faire sortir Boo Radley. À quoi je répondais que s'il tenait à remonter aux origines de l'événement, tout avait vraiment commencé avec le général Andrew Jackson. Si celui-ci n'avait pas croqué les Creeks dans leur creek, Simon Finch n'aurait jamais remonté l'Alabama et, dans ce cas, où serions-nous donc? Beaucoup trop grand pour régler ce différend à coups de poing, nous consultions Atticus,
et notre père disait que nous avions tous les deux raison. En bon sudiste, certains membres de notre famille déploraient de ne compter d'ancêtres officiels dans aucun des deux camps de la bataille d'Hastings. Nous devions nous rabattre sur Simon Finch, apothicaire de Cornouailles, trappeur à 16 heures, dont la piété n'avait d'égal que l'avarice. Irrité par les persécutions qu'en Angleterre, leurs frères plus libéraux faisaient subir à ceux qui se nommaient « méthodistes », dont lui-même se réclamait, Simon traversa l'Atlantique en direction de Philadelphie pour continuer ensuite sur la Jamaïque, puis remonter vers Mobile et, de là, jusqu'à St. Stephen's. Respectueux des critiques de John Wesley contre le flot de paroles suscitées par le commerce, il fit fortune en tant que médecin, finissant néanmoins par céder à la tentation de ne plus travailler pour la gloire de Dieu, mais pour l'accumulation d'or et de coûteux équipages. Ayant aussi oublié les préceptes de son maître sur la possession de biens humains, il acheta 3 esclaves et, avec leur aide, créa une propriété sur les rives de l'Alabama, à quelques 60 kilomètres en amont de St. Stephen's. Il ne remit les pieds qu'une fois dans cette ville, pour y trouver une femme, avec laquelle il fonda une lignée où le nombre des filles prédominait nettement. Il atteignit un âge canonique et mourut riche. De père en fils, les hommes de la famille habitèrent la propriété, Finch Landing, et vécurent de la culture du coton. De dimensions modestes comparées aux petits empires qui l'entouraient, la plantation se suffisait pourtant à elle-même, en produisant tous les ingrédients nécessaires à une vie autonome, à l'exception de la glace, de la farine de blé et des coupons de tissu apportés par des péniches remontant de Mobile. Simon eut considéré avec une fureur impuissante les troubles entre le Nord et le Sud, qui dépouillèrent ses descendants de tous leurs biens, à l'exception des terres. Néanmoins, ils continuèrent à vivre de la terre jusqu'au XXe siècle, époque où mon père, Atticus Finch, se rendit à Montgomery pour y faire son droit, et son jeune frère à Boston pour y étudier la médecine. Leur sœur, Alexandra, fut la seule Finch à rester dans la plantation. Elle épousa un homme taciturne qui passait le plus clair de son temps dans un hamac au bord de la rivière, à guetter les touches de ses lignes. Lorsque mon père fut reçu au barreau, il installa son cabinet à Maycomb, chef-lieu du comté du même nom, à environ 30 kilomètres à l'est de Finch Landing. Il occupait un bureau tellement petit, à l'intérieur du tribunal, qu'il put à peine y loger un porte-chapeau, un échiquier et un code de l'Alabama flambant neuf. Ses deux premiers clients furent les deux derniers condamnés à la pendaison de la prison du comté. Atticus leur avait conseillé de faire appel à l'indulgence du jury en plaidant coupable de meurtre au second degré et de sauver ainsi leur tête. Mais c'étaient des Haverford, autant dire des crétins aux yeux de tout habitant du comté. À cause d'un malentendu provoqué par la détention illégale d'une jument, ils avaient commis l'imprudence de tuer le meilleur maréchal ferrant de la ville devant 3 témoins, et ils crurent pouvoir se défendre en affirmant que « ce salaud ne l'avait pas volé ». Ils persistèrent à plaider non coupables d'un meurtre au premier degré, aussi Atticus ne put-il faire grand-chose pour eux, si ce n'est d'assister à leur exécution, événement qui fut sans doute à l'origine de la profonde aversion de mon père envers le droit pénal.
Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur, donc, d'Harper Lee, c'est à lire ou à entendre. Donc, dans un instant, nous partons à la découverte de la bibliothèque de Didier Decoin, le nouveau président de l'Académie Goncourt. On a du pain sur la planche. À tout de suite.
14h-15h sur Europe 1, La Voix est libre.
De retour dans La Voix est libre, c'est le moment d'aller visiter une bibliothèque. Il est maintenant président de l'Académie Goncourt, mais il est d'abord écrivain et scénariste. Il a été aussi président de l'Association des Amis d'Alexandre Dumas. J'étais sûr que sa bibliothèque me plairait. Écoutez. Bonjour Didier Decoin.
Bonjour, je suis bien content de vous accueillir à bord de mes bibliothèques.
Ben merci vraiment de nous accueillir. On est un peu loin de Paris, on est dans les Yvelines, à une heure de route à peu près, c'est chez vous. Vous n'avez pas de pied-à-terre à Paris ? Vous vivez là tout le temps ?
Je vis là 24 heures sur 24 et 365. Non, j'ai quand même une thébaïde, une maison de pêcheur au Cap de la Hague, qui est une part de mon paradis sur Terre, où je vais, où on va avec mon épouse le plus souvent possible. Mais où il n'y a qu'une forme de bibliothèque là-bas, c'est une bibliothèque maritime uniquement. Il n'y a que des livres de mer. Alors qu'ici, c'est beaucoup plus éclectique.
On est dans un petit village et c'est une chouette maison avec d'entrée beaucoup de livres. Tout à l'heure, dans l'entrée, on a vu des livres qui venaient d'être déballés. Ça, j'imagine que c'est pour le Goncourt.
Vous imaginez bien, c'est des arrivées du Goncourt. Alors, tous les matins, ça s'empile et il faut les consommer.
Et vous en faites quoi ensuite ?
Alors, quand on en arrive au mois de novembre, qu'on donne le prix, on les donne à un hôpital. On a cherché plein de solutions. J'en ai donné à une certaine époque à une bibliothèque. Maintenant, j'ai essayé les prisons, mais ils n'aiment pas ça parce qu'ils disent qu'il pourrait y avoir des lames à l'intérieur qui font, etc. Mais c'est soit les hôpitaux, soit les bibliothèques.
C'est vrai qu'un livre, c'est de toute façon une évasion.
Oui, c'est une belle formule. Si on en reste à l'évasion livresque, oui.
Didier Decoing, on peut aller voir les livres anciens.
Ah oui, allons voir les livres anciens. Une bibliothèque archipel, hein.
Mais parce alors, que là, on est au rez-de-chaussée, mais il y en a aussi à l'étage des livres.
Oui, il y en a
sur
les deux étages. D'accord. C'est une horreur. Il y en a partout. Là, il y a des Walter Scott édition ancienne en français, qui sont formidables.
Alors, ils sont un peu emprisonnés, ces livres-là.
Oui, parce que ceux-là, je les feuillette pas.
Ils sont dans une vitrine. Devant, il y a des cadres photos. Il faut se lever tôt pour le sortir.
Il faut appeler mon épouse, il faut appeler Chantal pour rien casser. Et elle défait la barrière. Je mets quelques bouquins que j'ai écrits là-dedans. Mais les Walter Scott, ils sont beaux. Hein.
Et là-bas, qu'est-ce qu'on a là ? Il y a toute une collection, je vois.
Alors,
tout au fond, là, dans une grande bibliothèque, un grand meuble.
Là, on va s'arrêter un instant là, parce qu'il y a une chose magnifique qui est... C'est le journal des Goncourt.
Ah oui !
En complet, là. Il y a l'œuvre complète du journal.
Il y a 25 tomes ?
Peut-être, oui. Facile. Et ça, c'est sensationnel.
Et vous les avez trouvés où ?
C'est un cadeau qu'on m'a fait. Et vraiment, j'étais fou de joie quand j'ai défait le paquet, que j'ai vu que j'avais le journal complet des Goncourt. Je mourais d'envie de le lire. Je me disais, je ne trouverai jamais ou j'aurai jamais l'argent pour l'acheter. Et voilà, c'est un vrai bonheur.
Quelle occasion vous a offert ça ?
Je me demande si ce n'était pas pour mon mariage.
Ah oui, d'accord.
C'est une vraie occasion, c'était solennel. Mais il y en a qui m'ont fait rire, parce qu'Edmond Goncourt était une peau de vache invraisemblable. C'est fou, oui, la méchanceté. Mais en même temps, c'était très drôle et tellement bien vu. Ce qu'il a dit de Flaubert était effarant. MeToo, c'est une rigolade. Enfin, comment s'appelle ce producteur ? Weinstein ? C'est rien à côté de Flaubert. La mésentente des Goncourt avec ce malheureux Guy de Maupassant, c'est très drôle.
Mais c'est vrai qu'ils étaient cruels quand même, les Goncourt.
Très cruels, parce qu'ils ont
fait. On n'a pas envie d'aller déjeuner avec eux chez Drouan, justement.
Ben, c'est une erreur. On y mange bien. Non, mais parce qu'ils étaient persuadés qu'ils étaient les meilleurs auteurs de fiction qui soient et que les gens ne s'en rendaient pas compte. Et en réalité, les romans des Goncourt ne sont pas très bons. Il y en a deux, trois, Germini, Le Certeux, ça c'est pas mal. Mais c'est le journal, leur œuvre. Mais eux, ils voulaient être connus comme auteurs de romans.
Mais puisqu'on y est justement, pourquoi ? Parce qu'il y en a eu des dizaines, qu'est-ce que je dis, des centaines des prix littéraires qui se sont créés, surtout à cette époque-là. Ouais. Pourquoi c'est le Goncourt qui est resté et qui depuis reste le maître ?
Alors, si vous avez la réponse un jour, vous me réveillez à 14h du matin, on ne sait pas. On ne sait pas parce que c'est le meilleur livre de l'année, parce que ce n'est pas forcément... Moi, j'ai un point de vue, c'est que je pense que c'est le livre qui est le plus en phase avec une qualité littéraire obligée. Il faut quand même que ce soit bien écrit dans un joli français. Je ne dis pas forcément un français en poulet, un joli français. Mais c'est le livre qui est en phase avec les préoccupations visibles ou invisibles de la société française de l'époque. Prenons un exemple, c'est Leïla Slimani avec Une chanson douce. C'est un questionnement, le confier ses enfants à quelqu'un qui les aimera. C'est un questionnement que toutes les familles se posaient.
D'accord, mais ça c'est récent. Comment il est arrivé à ce niveau-là, en fait ?
Chaque année, quand vous regardez bien, le Goncourt était en référence avec une inquiétude, une préoccupation sociale des Français. C'est... Évidemment pas, non seulement le meilleur livre de l'année, c'est pas le meilleur livre de la décennie. Le catalogue du prix Goncourt, c'est pas le Panthéon.
Non.
C'est quelque chose de vivant, d'abord. C'est quelque chose qui peut s'éclipser. Je veux dire que le livre qu'on trouve formidable aujourd'hui, moi ça me gêne pas si dans 5 ans on dit pourquoi vous avez couronné les bienveillantes. On s'en fout des bienveillantes. Mais quand on a couronné les bienveillantes, on s'est dit tiens, voilà le premier livre qui parle de la guerre et des salauds, qui en fait, hein, les nazis, vus du côté nazi. Et ça nous a intéressés parce que beaucoup de gens commençaient à se poser cette question-là. Je pense que c'est ça, c'est cette correspondance, parfois très ténue, parfois en point de suspension, avec nos préoccupations d'aujourd'hui, qui fait que le Goncourt est devenu un prix important. Et à partir du moment où il est un prix important, c'est comme le supertanker.
Ça reste.
Vous coupez les moteurs, il continue sur son air.
Ça s'alimente.
Voilà, ça.
Alors, on arrive enfin à la grande bibliothèque du fond. Enfin,
une, oui.
Une des. Mais il y a beaucoup de beaux livres aussi. Qu'est-ce que c'est, cette bibliothèque, ça ?
Alors, c'est une bibliothèque qui, elle-même, n'est pas particulièrement belle, mais qui contient des livres intéressants, certains très intéressants, comme ceux-là, par exemple, qui sont des...
La baïonnette.
Oui, à coups de baïonnette. C'est des livres...
Wow.
Qui datent de la guerre de 14, qui sont des livres de... c'était des journaux qui sortaient toutes les semaines, de propagande anti-allemand, avec des dessins absolument extraordinaires. Je vous le laisse.
Vous avez récupéré ça... Vous l'avez racheté plus tard ou c'est
non, c'est un héritage de mon père qui avait fait cette guerre-là. Et ça, c'est magnifique.
Il y a un bonnet phrygien et une mitraillette, enfin une baïonnette, mais avec des crayons à la place de la lame, en fait.
Parce que c'était une manière de lutter. Hein.
Ouais, il y a des dessins magnifiques.
Alors, c'était très humoristique. Et de temps en temps, vous avez une petite notule disant le dessinateur machin dont vous avez admiré les dessins que nous aviez écrits pour dire que c'était bien, il est mort dans les tranchées, etc.
Ah oui. Et vous les consultez encore, ces
livres-là ? Oui. Ceux-là, oui. Il y a beaucoup de choses dans cette bibliothèque-là dans lesquelles je vais fouiller, parce qu'il y a des trucs qui m'intéressent.
Vous aimez bien les collections, quand même, j'ai l'impression. Avoir tous les tomes.
Ben oui, d'abord, c'est joli.
Il y a le moniteur.
Ça, c'est formidable aussi.
Il y a 30 tomes du moniteur.
Oui, c'est dans des facsimilés de journaux, notamment de la Révolution française. Alors, vous voulez savoir ce qui s'est passé, pas le 14 juillet, tout le monde sait, mais le 21 janvier, où on a guillotiné Louis XVI, et vous avez la recension là-dedans, comme si c'était un journal d'aujourd'hui. Ça, c'est mon cher Kawabata.
Pourquoi votre cher Kawabata ?
Pour moi, c'est le plus grand auteur de romanesque, c'est le plus grand romancier qui soit, parce qu'il a une écriture... qui est une écriture transparente, c'est une écriture cristalline. Alors que moi, je passe mon temps à élaguer trop d'adjectifs, trop d'adverbes. Lui, c'est une ligne transparente, continue, c'est prodigieux. C'est prodigieux, Kawabata. Le maître ou le tournoi de Go, c'est extraordinaire. Ils sont tous formidables.
Il y a beaucoup de photos du Goncourt.
Il y a deux photos de l'Académie, oui.
Là, c'était quand, ça ?
Alors ça, c'est la... On va en faire une plus récente. Celle-là doit avoir 3 ans à peu près.
Vous devez en avoir des dizaines, en fait. À chaque fois qu'il y a un événement, ils vous prennent en photo.
Oui, mais ils ne nous donnent pas toujours les photos.
Merci beaucoup, Didier Decoing. Merci de nous avoir reçus.
Merci infiniment, Nicolas, d'avoir osé vous frotter à mon archipel bibliothèque.
Et bon courage pour la rentrée littéraire.
Merci.
Europe 1.
Didier Decoing, donc, que l'on laisse à son travail de sélection pour le Goncourt. On le recroisera sans doute à la rentrée littéraire. Dans un instant, direction les librairies pour flâner un peu dans les rayons. A tout de suite.
14h-15h sur Europe 1.
La voie est libre.
Il est l'heure de flâner dans les rayons des librairies avec aujourd'hui Anne-Sophie Rouvelou de la librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine et Stanislas Rigaud, librairie Lamartine à Paris. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Alors de quoi nous parlez-vous aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, je voulais revenir sur un des très gros coups de cœur de l'année dernière qui sort en livre poche. Cette semaine, c'est le roman policier de Morgan Audic, De bonnes raisons de mourir, donc aux éditions du Livre de Poche. C'est pour moi le meilleur roman policier de l'année dernière et je pense qu'il y a beaucoup trop de monde qui ne l'a pas encore lu. Alors le point de départ est un peu plus simple, on est aujourd'hui en Ukraine et la police ukrainienne est appelée, on a retrouvé un homme mort dans la zone de Tchernobyl, aux alentours de la zone de Tchernobyl. Cet homme s'avère être le fils d'une femme qui a été assassinée des années auparavant, le jour où la centrale a explosé. Parallèlement à cette tortueuse histoire, forcément tortueuse, où on va suivre un flic russe qui est payé une fortune par un oligarque très 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 méchant qui veut faire payer de manière très 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 méchante les assassins de son fils et donc de sa femme. Voilà, c'est parti. Alors, tout est formidable dans ce roman. D'abord le contexte, un contexte ukrainien avec les fantômes de Tchernobyl, cette zone d'aujourd'hui, mais les fantômes d'hier, plus le Donbass en ligne de front... est parfaitement maîtrisé. Longtemps d'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai appelé l'auteur Morgan Odić. Je l'ai appelé Morgan Odić, persuadé que le monsieur avait des origines de l'Est, alors qu'en fait, le monsieur est breton. Et, mais on est tellement immergé que c'était évident, ça ne pouvait pas être autrement. Voilà. Et c'est tout pour vous dire à quel point, effectivement, ce roman est un des grands romans, un grand polar français, qui est dans la famille de Yeroul Léger, de Yann Manot, qui est dans la famille de Zoulou de Carrick Ferré, ce genre de livres qui ont marqué leur époque à chaque fois, et je croise les doigts pour que celui-ci le fasse enfin.
On croise les doigts avec vous, Anne-Sophie Rouvelou, c'est à vous.
Eh ben, je vais vous parler d'un grand classique, Nicolas, je vais vous parler d'Autant en emporte-le-vent, de Margaret Mitchell, qui ressort chez Gallmeister en deux tomes, avec une nouvelle traduction de Josette Chiche-Portiche, pardon. La traduction, ce qui est génial, c'est qu'elle va carrément dépoussiérer un petit peu le style, parce que, pour rappel, l'ancienne traduction est datée de 1939 quand même. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Autant d'emporte-vent, si c'est encore possible, ou qui ne connaissent pas plus que ça, on est en 1861 aux États-Unis en compagnie de l'inoubliable Scarlett O'Hara, la jeune femme de 16 ans qui va bientôt être héritière de Tara, qui est une plantation, un domaine de coton en Géorgie. Scarlett, elle a un fort caractère et tous les garçons des environs se battent pour lui faire la cour. Sauf que Scarlett, eh ben, elle reste insensible parce que son cœur est pris par un certain Ashley qui voilà, ne lui retourne pas cet amour, on va dire, passionné. En fait, pour Scarlett, il y a deux drames qui se préparent, c'est-à-dire que Ashley, bah, il est tout simplement sur le point d'épouser sa cousine Mélanie et il y a aussi quelque chose qui se trame, c'est-à-dire que le nord et le sud des États-Unis vont bientôt s'affronter. Ce sera les Yankees du nord qui vont combattre les sudistes, plongeant le pays en pleine guerre de sécession. Scarlett, elle va fuir à Atlanta et elle va rencontrer le séduisant Red Butler, qui est considéré partout comme un renégat à cause de ses mœurs légères et de son aversion pour tout, la morale, la guerre. Je le répète, son aversion pour tout, sauf lui-même. Voilà pour le début. On plonge dans une fresque qui est épique, qui est dramatique, qui se dévore en grande partie, comme je le disais, grâce à la nouvelle traduction, c'est beaucoup plus fluide et plus proche du texte original.
Super.
Si je dois citer qu'un exemple, c'est la première phrase. Hein, l'ancienne traduction dit à peu de choses près, Scarlett O'Hara n'était pas d'une beauté classique. La nouvelle traduction, c'est Scarlett O'Hara n'était pas belle. Et c'est beaucoup plus proche
plus
du texte.
Direct.
Il y a aussi le phrasé des Afro-Américains qui change. Il n'y a plus l'élision du R, hein, comme on le trouvait un peu partout. Et puisqu'on parle de ça, des Afro-Américains, pour ce thème-là, il y a le problème dans ce classique du racisme. Il est très présent. Les personnages de couleur noire sont au mieux infantilisés, au pire traités comme des animaux. Très honnêtement, Nicolas, certains passages étaient vraiment pénibles à lire, révoltants. Alors, ma grande question, je ne sais pas si tu as une réponse, Nicolas, moi, j'en ai pas. À l'heure des émeutes qui ont enflammé les États-Unis et le monde entier pour dénoncer la mort de George Floyd, qu'est-ce qu'on fait d'un tel texte?
Ben c'est pas dur, on le lit avec la conscience de ça.
Ouais, tout à fait. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire et c'est ce que je veux que tout le monde essaye de faire, en fait, parce que c'est vraiment un texte qui est génial. C'est un classique, mais après, voilà, il faut être conscient vraiment de ce racisme omniprésent et franchement dérangeant, quoi.
Autant en emporte le vent, donc, traduction, nouvelle traduction chez le magnifique éditeur Gallmeister. Merci beaucoup, Anne-Sophie Rouvelou, et merci à Stanislas Rigaud. Donc, librairie Lamartine à Paris et librairie L'Infini Comédie à Bourg-la-Reine. Dans un instant, encore des livres, on rejoint ce grand enfant de Victor Dolande.
Il était une fois.
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 Et comme chaque semaine, on retrouve donc le conseil littérature jeunesse de Victor Dolande. Bonjour Victor.
Bonjour Nicolas.
Et aujourd'hui, vous nous présentez un livre intitulé « Dans quel monde vit-on ?» Grande question.
Oui, grande question.
De Clémentine du Pontalis.
Oui, je vous emmène en voyage de classe au bord de la mer. Et vous savez, à cet âge-là, les questions fusent sur tout et tout le temps. Le trajet, déjà 6 heures de train.
Quand est-ce qu'on arrive?
Exactement. Yori s'étonne que sa classe n'ait pas pris l'avion. Bah oui, ça irait plus vite. Explication immédiate de la maîtresse, voyager tout le temps en avion augmente la température de l'air et ça fragilise la planète. Plus on avance et plus les questions se multiplient. Les enfants aperçoivent des hommes habillés en cosmonautes qui arrosent des plantes avec des pistolets. Là aussi, la maîtresse explique que les engrais utilisés sont très nocifs pour la santé. Mais derrière, on mange ses légumes, s'étonnent les enfants.
Mais donc, c'est un livre sur la conscience écologique, ça fascine les enfants, ça?
Ben oui, il va les toucher parce qu'il décrit des scènes de vie qu'ils rencontrent ou qui vont leur arriver. Voici un autre exemple, lu par Léon.
Voir de l'océan, c'est la grande stupéfaction. Les vagues frappent sur les rochers, les mouettes dansent. Elles poussent de grands cris, on dirait qu'elles rient. Tout à coup, l'une d'elles fonce vers le sol attrape un objet et reprend son envol. Mais qu'est-ce qu'elle a pris ? Demande Isaïe. C'était un bouchon de plastique. Elle a dû penser que c'était un aliment, répond la maîtresse. Oh non, elle risque de l'avaler et cela pourrait la tuer, s'inquiète Prune.
Le plastique cause aussi beaucoup de dommages sur les poissons et plus on avance dans le livre, plus l'auteur veille à donner des débuts de solutions aux enfants. Mmh. Et ce sont d'ailleurs le plus souvent eux qui nous montrent la voie. Chacun sa gourde, propose un enfant. On enlève les pailles en plastique et les ballons d'anniversaire, renchérit l'un de ses camarades. Les enfants ramassent ensuite des déchets sur la plage pour faire une exposition et en fait tout expliquer au retour à leurs parents.
En revanche, on ne prête pas sa gourde en ce moment.
Non, on ne la prête pas du tout, du tout.
Et ça marche alors ?
Oui, vous n'avez qu'à regarder autour de vous, Nicolas. Les enfants ont souvent déjà pris deux bonnes habitudes que leurs parents mettent des années à apprendre. Ce n'est pas un livre moralisateur, absolument pas. Plus une béquille sur laquelle les enfants peuvent s'appuyer pour montrer justement le bon exemple à leurs parents. C'est un livre à lire à partir de 5-6 ans.
Et on rappelle le titre « Dans quel monde vit-on ?» de Clémentine Dupont-Avis. C'est aux éditions L'École des loisirs, bien sûr. Merci Victor.
Merci Nicolas.
Europe 1.
C'était la dernière page de cette émission. Merci à Agnès Vaudin pour son aide et son carnet d'adresses, à Xavier Joly pour la programmation musicale, et puis évidemment Boris Paczynski, l'homme aux doigts de fée. On se retrouve la semaine prochaine pour les hors-séries de l'été. Nous consacrerons l'émission à Alexandre Dumas. À la semaine prochaine.
14h-15h sur Europe 1. La voix est libre.
Nicolas Carreau.